Bonjour et bienvenue sur le podcast Orema. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Si vous êtes intéressé par les thématiques de la parentalité et de la transmission culturelle, ce podcast est fait pour vous. Et parce que je ne suis pas que maman, je partage aussi avec vous mes découvertes et des témoignages autour de l'entrepreneuriat et de la communication digitale, domaine dans lequel j'évolue en freelance. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Connaissez-vous les doulas ? Parce que jusqu'à il y a quelques années seulement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Lors de ma première grossesse en 2010, je n'avais jamais entendu parler de doula. J'ai appris beaucoup sur ce métier en écoutant l'épisode du podcast « Tant que je serai noire » avec comme invité Dani. Par la suite, j'ai rencontré sur Instagram Émilie qui exerce également cette belle profession sur laquelle j'ai eu envie d'apprendre davantage. Nous avons donc parlé de ce qu'est une doula, de comment elle accompagne les futures mères, les mères, mais aussi les femmes, de son parcours et de bien plus encore. Je vous laisse découvrir notre échange et je remercie encore Émilie pour sa disponibilité. Bonjour Émilie.
Bonjour Lauriane.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi pour cette invitation.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui nous écoutent ?
Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Émilie et je suis doula en Île-de-France. J'ai 29 ans et je suis maman d'un petit garçon de 4 ans.
D'accord. Alors, c'est quoi une doula ? Je te demande d'entrer parce que je pense que certaines personnes qui vont cliquer sur le lien de l'épisode ne connaissent pas. Après, ouais. je pense que c'est quand même un mot qu'on a un peu plus entendu ces temps-ci. Mm-hmm. Moi, pour ma part, je l'ai entendu pour la première fois avec Erika Badou. Ouais. J'ai entendu qu'Erika Badou était doula.
Là, ouais.
Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est ? Je me suis intéressée. Mais voilà, je pense que tu es mieux placée que moi pour parler de ce qu'est une doula. Et donc, je vais te laisser la parole.
Ok, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, en tout cas en France, on connaît pas trop les doulas et je pense que avec cette période compliquée sanitaire et avec tous les confinements, on en a entendu un peu plus parler parce que les femmes en avaient plus besoin et aussi parce qu'on était beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Alors une doula, c'est une accompagnante, c'est une femme qui va accompagner une autre femme sur sa période périnatale, donc autour de la maternité. Donc la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et pour certaines doulas aussi, on fait de la préconception. Donc c'est un accompagnement qui n'est pas basé sur le médical. C'est un accompagnement qui va être émotionnel, physique et informationnel. Vraiment, c'est du soutien émotionnel qu'on apporte aux femmes. C'est vraiment ce qui manque finalement quand on est accompagné médicalement, parce que c'est clair qu'on s'assure que la maman et le bébé vont bien, ce qui est quand même primordial, hein, c'est sûr. Mais tout le reste n'est pas forcément pris en compte, et c'est ce que la doula va faire avec un accompagnement qui va être aussi individualisé, parce que je ne vais pas accompagner Marie et Fatima de la même façon parce que ce sont deux femmes complètement différentes. Donc, on prend aussi en considération le passé, l'histoire des gens, l'origine des femmes. Donc, c'est vrai que je dis beaucoup les femmes, mais finalement aussi, on accompagne la famille en devenir. Donc, le couple, voilà, on accompagne le couple, on accompagne la famille. Voilà.
Alors, quand tu parles d'accompagnement, est-ce que c'est psychologique ?
Ça peut être un peu psychologique. Après, on n'est pas thérapeute. Donc, vraiment, s'il y a vraiment des mamans qui sont en détresse, on réoriente, hein, puisqu'on n'est pas thérapeute. Après, il peut y avoir des doulas qui sont psychologues aussi. Mais le métier de doula, on n'est pas psychologue. Donc, non, si vraiment... c'est vraiment dans la mesure du possible. Hein. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, nos amis. On peut accompagner nos amis un petit peu psychologiquement, mais à une certaine mesure. Donc voilà, c'est vraiment à une certaine mesure. Sinon, non.
D'accord. Et en fait, c'est un peu comme si vous étiez, on va dire, une amie ou une proche, quelqu'un de la famille, mais consacrée vraiment à accompagner dans. Parce que les proches, voilà, ils sont là, mais ils ont autre chose à faire.
Vraiment.
Mais c'est un peu comme si vous, entre guillemets, les remplaciez, mais spécifiquement sur. Sur ce point-là, pour accompagner sur un peu tous les chamboulements émotionnels qu'il y a autour de la grossesse. Donc, leurs inquiétudes, leurs préoccupations, peut-être tout ça, ce sont des choses que les familles vous confient.
Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que souvent on me dit oui, mais est-ce que ça sert d'avoir une doula si j'ai une famille? Et c'est vrai que finalement le métier de doula, moi je dis souvent que c'est l'un des métiers les plus vieux du monde parce que avant la doula, ça pouvait être vraiment la tante. Et ça peut encore l'être dans certains coins du monde, en Afrique et tout, par exemple, ou en Asie, où tout simplement quand une femme est enceinte, elle est accompagnée, entourée tout le long de son processus maternel. Mais c'est pas quelque chose qu'on a ici en Occident. Et c'est pas forcément méchant. Chacun a sa vie, on n'a pas forcément le temps de le faire. Voilà, que ce soit nos mères, nos sœurs ou je ne sais qui. Donc du coup, c'est vrai que nous, on est là pour le faire. Et moi, j'aime bien dire, même si je sais que beaucoup de doulas n'aiment pas trop, parce qu'on trouve que ça, peut-être que ça déprofessionnalise la profession. Mais moi, j'aime bien dire que la doula, c'est la meilleure amie de la femme enceinte. Voilà, c'est vraiment, je suis là pour toi. Voilà, je suis. Mes oreilles sont là pour t'écouter, mes épaules sont là pour que tu puisses te poser dessus sans jugement, parce que c'est ça aussi, hein, la différence entre une amie proche et une doula, c'est que cette amie, elle va te connaître et elle va avoir peut-être tendance à te juger ou en tout cas te donner des. C'est peut-être bienveillant, hein, évidemment, ça reste bienveillant, mais des fois, c'est pas ce qu'on a besoin. Voilà. On n'en a pas
Et
forcément besoin.
ouais, oui, mes amis, leurs avis et leurs conseils
Voilà.
sont biaisés, quoi. Et la doula, elle essaie en tout cas de rester, enfin, elle doit, elle est
Neutre.
supposée rester neutre.
Neutre.
D'accord. Et quel est ton parcours à toi, en fait? Comment tu es devenue doula?
Comment je suis devenue doula? Alors, moi, c'est vraiment par rapport à ma maternité. Vraiment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un petit garçon d'un peu plus de 4 ans. Quand je suis tombée enceinte, j'étais chez ma mère. Donc j'étais encore avec le père, mais c'est pas forcément la situation la plus idéale. C'était pas forcément facile tout le temps. Et je me suis rendu compte que dans l'accompagnement qu'on nous offrait, c'était vraiment un accompagnement, comme je disais tout à l'heure, très médical. Et il y avait pas trop le reste. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Il me manquait quelque chose. Ça s'est très bien passé chez ma mère. Voilà, j'étais très bien entourée. Et ça aussi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, j'ai quand même la chance d'être avec ma mère, qui s'occupe de moi, qui m'entoure, mais c'est pas tout le monde. Et même si on est en couple, qu'on est marié, qu'on est avec un homme merveilleux, un homme, c'est pas une femme. Et quand on est enceinte, ben on a besoin de cette figure maternelle, de cette figure féminine. Et je me posais la question de comment les femmes elles faisaient quand elles n'avaient pas ça en fait. Et au-delà de ça, pendant ma grossesse, ben moi j'avais vraiment une envie d'avoir un accouchement physiologique. Enfin voilà, je savais déjà où ce que je voulais aller et je me rendais compte que autour de moi, les femmes quand elles étaient enceintes, ben elles se posaient pas forcément de questions sur ce qu'elles pouvaient avoir. Faire pendant leur grossesse, leur accouchement, enfin bref, c'est-à-dire que t'es enceinte et je me suis vite rendu compte que les femmes en Occident, donc du coup en France, parce que moi je parlais de ce que je connais et de ce que j'ai vu, on est vraiment très déconnectées de nous et encore plus quand on est enceinte, alors que justement moi quand je suis tombée enceinte, je me suis encore plus reconnectée à moi-même et ça m'a vraiment perturbée, vraiment, ça m'a vraiment perturbée. Donc voilà, après j'ai eu l'accouchement que je voulais, physiologique et tout. En postpartum, ça n'a pas forcément super bien commencé parce que mon allaitement, il a été compliqué à la maternité, j'ai pas eu les bons conseils. Et en rentrant chez ma mère, j'ai une sage-femme merveilleuse qui a sauvé mon allaitement, qui m'a donné les conseils qu'on m'avait jamais donné et qui du coup j'ai pu bien relancer mon allaitement. J'allaitais mon fils 3 ans et demi et du coup c'est vrai que tout ça, je me suis dit ben en fait on manque d'informations, il y a quelque chose qui manque. Et je me disais mais en fait c'est pas à cause forcément des sages-femmes et des gynécologues, parce qu'on les voit quand même tous les mois, une fois par mois, et elles ont peut-être pas le temps, en fait. C'est pas, il manque quelque chose. Et je me suis dit, ben, peut-être que tu pourrais être cette personne qui accompagne les mamans, voilà, un accompagnement juste pour avoir un soutien émotionnel et avoir les informations nécessaires. Les informations nécessaires. Moi, je savais pas que les doulas existaient. Quand j'ai voulu être doula. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça existait. Et je me suis dit, ben voilà, je suis doula en fait. Donc, c'est un petit peu ça mon parcours. Et ensuite, j'ai cherché à me former et j'ai commencé à me former et j'arrête pas de me former depuis.
Et comment on se forme au métier de doula ?
Comment on se forme ? Il y a pas mal de formations aujourd'hui qui existent. Moi, je me suis formée avec Diane Boutin. C'est une professionnelle périnatale québécoise. Donc, elle était venue sur Paris pour nous former. Donc, elle est, c'est une ancienne sage-femme traditionnelle, ancienne doula aussi. Elle est auteure de deux livres. Elle est conférencière. Enfin, bref, elle est assez connue dans le milieu. Mais sinon, il y a d'autres formations. Par exemple, il y a les Doulas de France. Donc, l'Institut des Doulas de France qui font une formation par an, qui s'étale sur toute une année. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres formations. Après, c'est vrai que les Doulas de France, c'est souvent les formations qu'on connaît le plus parce que l'association des Doulas de France, c'est la plus grande association de doulas en France, qui font un travail vraiment remarquable pour faire reconnaître le métier de doula. Donc, c'est vrai que je ne fais pas partie de cette association parce que j'ai pas été formée chez eux et tout, mais ça n'empêche que je respecte énormément leur travail. Et voilà.
D'accord. Et alors, on est d'accord, doula, c'est pas reconnu, c'est pas encadré, on va dire, officiellement.
Non.
Ce n'est pas pris en charge par la Sécu.
Non plus.
Ça coûte combien, finalement, de faire appel à une doula ou est-ce qu'on peut vivre en étant que doula aujourd'hui, je veux dire, dans l'état actuel de l'économie, ouais, des choses,
la conjoncture.
Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est réaliste et est-ce que c'est possible de n'être que doula? Comment ça se passe un petit peu, ou est-ce que tu fais que ça ou est-ce que tu fais autre chose à côté?
C'est une question super intéressante. Enfin, tu as posé plusieurs questions.
Oui,
mais c'est vrai. Dans l'ordre. Donc, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé. Donc, merci d'avoir précisé que le métier de doula, ce n'est pas un métier qui est réglementé en France. Donc, on ne peut pas se faire financer une doula. Donc, combien ça coûte une doula? Ça dépend. Ça dépend. Mais je vais quand même répondre. Donc, si vraiment on n'a pas de moyens, il y a quand même des associations. Il y a quand même des associations, même si en France aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de doulas qui se font payer, ce qui est une bonne chose, tout simplement pour que le métier, en tout cas la pratique, soit reconnue comme un métier. Et ben, faut pouvoir en vivre, parce qu'un métier, on en vit. Et dans tous les autres pays, les doulas, elles en vivent très bien. En France, c'est très tabou, l'argent et l'accompagnement en France. Bref, c'est un autre débat, mais ça permet de répondre à la question. Sinon, une doula, en tout cas, en France, on va dire que une séance d'une heure, 1h, 1h30, ça peut varier entre 50 jusqu'à 80 euros pour les doulas qui sont confirmées. Donc moi, je dirais plutôt une moyenne de 60 euros. En tout cas, moi, c'est ce que je propose, c'est 60 euros la séance. Du coup, qu'est-ce que tu disais? Alors, comment se faire financer une doula? Alors, comme je disais, si on vraiment n'a pas de moyens, il y a de l'association. Encore une fois, c'est une pratique d'accompagnement. Donc, moi, je dis toujours aux femmes, n'hésitez pas à dire à la doula si vous avez vraiment des problèmes financiers. Parce que d'une doula à l'autre, on peut de temps en temps faire du bénévolat. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire du bénévolat. Ou aussi, il y a des doulas qui peuvent faire du troc, hein. Je trouve ça encore super. S'il y en a une famille qui est vraiment financièrement dans une situation précaire, je sais pas, le mari, il est plombier, ben écoute, tu peux venir à la maison faire des travaux pour moi.
Je trouve que ça a du sens même par rapport au métier en lui-même. Même si derrière, bien sûr, tout travail mérite salaire et qu'on a des factures à payer à la fin du mois. Mais en parlant de troc, ça reste quelque part logique dans ce que c'est qu'être doula, quoi.
Carrément, carrément. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas encore fait, mais que je suis super ouvert. Moi, j'aimerais bien avoir l'épouse d'un mécano. J'ai besoin d'un mécano. Je rigole. voilà. Sinon, alors, on reçoit quand même des aides, souvent des mutuelles ou de notre boulot, des primes de naissance. Donc, on peut se payer sa doula avec une prime de naissance, parce que selon les besoins de l'une ou de l'autre, on n'a pas forcément besoin d'énormément de séances. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, on peut utiliser ça. Et sinon, moi, ce que je dis souvent, tout simplement, faire une cagnotte. Ouais, c'est la mode aujourd'hui, les cagnottes. Mais voilà, quand on est enceinte, généralement, notre entourage, il a envie de nous aider, il a envie de nous offrir des cadeaux. Donc, au lieu de recevoir des peluches ou des bodys roses et tout, sachant qu'on va quand même aller acheter des vêtements pour notre enfant et on a souvent trop de choses, on crée une cagnotte. Tu veux vraiment m'aider? Eh ben, écoute, mets un petit peu d'argent. Moi, j'aimerais bien me payer une doula. Donc, je préfère que tu mettes même 5 euros plutôt que d'aller m'acheter un doudou.
Bah voilà. Écoute, ouais, ça c'est une très bonne idée. Tu sais, donc, j'aurais même pas pensé à ça comme cadeau de naissance. Voilà. Très, très, très bonne idée. Et donc, les doulas, elles accompagnent un petit peu donc pendant toute la grossesse et aussi pendant un peu le postpartum. Alors, j'ai pas rêvé. J'ai bien vu que tu faisais des bains de vapeur, c'est
oui,
ça?
Oui, oui. C'est vrai que j'ai pas fini de répondre à la question où tu disais qu'est-ce qu'on en vit et qu'est-ce que je fais. Mais oui, je fais des bains de vapeur. Je vais répondre à la question, du coup. Est-ce qu'on peut vivre du métier? Moi, je dis que oui. Maintenant, en France, je pense qu'on peut difficilement ne vivre que d'accompagnement. Tout simplement parce que l'accompagnement, c'est lourd d'accompagner des femmes enceintes. Parce que souvent, quand je dis que je suis doula, les gens disent « mais c'est trop bien et tout, tu vois, des bébés, des mamans et tout. » Ah oui, c'est bien, il n'y a pas de souci, je ne dis pas que c'est pas bien. J'adore ce que je fais, mais c'est pas toujours heureux. Hein. C'est pas toutes les femmes qui ont eu des bonnes situations, qui sont mariées avec un mari aimant et que ça se passe bien et tout. Il y a des couples qui se brisent pendant la grossesse. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Donc, je suis aussi un être humain. Encore une fois, tout à l'heure, je disais que j'étais pas thérapeute. Donc, c'est pas forcément toujours facile pour moi. Donc, je pense que c'est pas forcément facile de suivre énormément de personnes à la fois. Et pour avoir un salaire assez, si on calcule hein, 60 euros la séance, pour pouvoir en vivre, il faudrait vraiment suivre beaucoup de femmes à la fois. Donc, généralement, les doulas, quand elles vivent de leur activité, elles ne font pas que ça, elles ne font pas que de l'accompagnement. Souvent, elles vont avoir des choses qu'elles vont proposer en plus. Donc, par exemple, c'est souvent du massage. Massage prénatal, massage des bébés, des soins postnatal, donc le rebozo, donc moi je fais du rebozo, et tu disais que je faisais aussi des soins vapeur. Donc,
alors du rebozo c'est quoi?
Alors rebozo c'est un rituel postpartum mexicain.
Ok.
Un très beau rituel que j'adore faire, j'adore pratiquer, que on fait, donc comme je le disais en postpartum, c'est vraiment un rituel pour de fermeture. Voilà, okay. Pour fermer la maternité en fait, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, c'est fini. Là, t'es maman, on va de l'avant. Mmh. Et c'est un rituel qui dure entre 3 et 4 heures, qui se compose en 3 parties, 3 grosses parties. Donc, une partie où on va discuter avec la maman, une partie de... Enfin, j'ai dit 3 parties, mais on va dire 4 parties. Une partie de massage, une partie où on va faire une montée en chaleur, donc soit avec un bain vapeur, soit avec un bain de plantes si la maman elle a des plants, un bain chez elle, ou un hammam portatif si la doula elle a un hammam portatif. Et la dernière partie, c'est une partie de serrage où on va serrer tout le corps avec des rebozos. Et justement, le rebozo, c'est un grand tissu mexicain. Donc, c'est un soin qu'on fait après la naissance et qui se pratique, enfin normalement qui se fait avec deux praticiennes. Donc c'est un soin à quatre mains. C'est vraiment un très très beau soin. Donc souvent, ben c'est ça qui nous aide à en vivre, quoi. Vraiment, c'est pas l'accompagnement en lui-même, mais c'est tout ce qu'on peut proposer à côté, en annexe, qui fait vraiment des revenus. Donc voilà pour le Rebozo. J'essaie de pas trop parler parce que je suis bavarde. J'essaie de raconter des choses.
Et le bain de vapeur, moi, ça m'intéressait parce qu'en fait, j'ai accouché, j'ai eu deux césariennes.
Ouais.
Et j'ai accouché en France. Mais en fait, au Gabon, on fait l'eau chaude.
Mm-hmm.
Et je ne sais pas exactement parce que je n'ai jamais accouché là-bas et ni par voie basse.
Mm-hmm.
Mais en plus de mettre de l'eau chaude directement sur la maman, en fait, y a une partie vapeur, en fait. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur les bienfaits des bains de vapeur.
Ouais. Alors, les bains de vapeur, ben, c'est intéressant parce que tu dis qu'au Gabon, il y a une pratique qui ressemble à ce que je propose. Ben, c'est clair que de toute façon, c'est une pratique qui est ancestrale, qui se fait un peu plus ou moins... dans tous les pays d'Afrique, dans certaines régions, en Afrique, ou même, je dis en Afrique, mais même dans le monde, hein, ça se fait encore en Guyane, au Brésil, voilà, dans les Amériques, en Asie, et même en Europe aussi, en Norvège. Après, ça, les pratiques, elles diffèrent, mais c'est toujours pour les mêmes raisons. Donc, c'est vrai que toi, tu en parles en post-natal, mais moi, je propose aussi les vapeurs aux femmes qui ne sont pas enceintes, parce que ça peut régler beaucoup de soucis. Donc pour le post-natal, ça va tout simplement aider à la cicatrisation, à relâcher les muscles, enfin voilà, ça détend la zone pelvienne, le plancher pelvien, tout ça. Donc c'est un très beau soin à faire en post-natal. Au-delà de tout l'aspect après la naissance, ça peut aider pour la fertilité, pour la libido, pour les infections, pour les sécheresses vaginales et tellement d'autres choses, les règles douloureuses, les règles abondantes ou les femmes qui n'ont pas de règles. Par exemple, j'ai une cliente, alors elle a une pilule qui fait qu'elle lui donne pas de règles et elle aimerait bien arrêter cette pilule. Et du coup, je lui ai fait des soins pour qu'elle puisse avoir ses règles. Et quand je lui ai fait le soin, elle a eu ses règles. Genre 2 heures après, alors que ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas eu de saignement. Donc voilà.
C'est bon, ça, ouais.
Ouais.
Elle a arrêté sa pilule ?
Non, elle n'a pas encore arrêté.
Ah, ok, d'accord. Donc les règles sont revenues malgré le fait qu'elle continue à prendre sa pilule. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça.
Donc voilà. Et par exemple, cette femme-là aussi, c'est une femme qui a des problèmes de sécheresse.
Donc vraiment le bain, enfin pas le bain, mais les vapeurs, ça aide vraiment sur plein de...
Voilà, c'est ça aide sur plein de choses. En fait, c'est prendre soin de son utérus, quoi. Voilà, prendre soin de son utérus, de la même façon que tout le reste de notre corps, on le lave, on en prend soin et tout, mais l'utérus, on le laisse un petit peu, on le laisse comme ça, parce que ben on dit souvent qu'il faut pas y toucher, mais quand on regarde ce que les anciens faisaient, ben il y avait certaines pratiques. Voilà, et on y touchait. Donc voilà.
Ok. Et est-ce que tu as, depuis le temps que tu pratiques, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait certaines problématiques rencontrées par les futures mamans qui revenaient souvent ?
Alors, la première chose, hein, c'est que les femmes, elles se sentent seules quand elles sont enceintes. Vraiment, c'est souvent quand les femmes elles viennent, c'est que vraiment le médical c'est bien, mais ça suffit pas. Et souvent aussi, on a tendance à penser que le mari suffit entre guillemets, mais des fois ça suffit pas, parce que comme je disais tout à l'heure, un homme il peut être l'homme le plus merveilleux, un homme ça reste un homme, il sait pas ce que tu vis, il saura jamais ce que tu vis et il pourra pas te comprendre comme une femme pourra te comprendre, et c'est souvent ce qui revient en fait, c'est-à-dire je me plains mais il comprend pas. Alors des fois il est bienveillant et c'est bien quand ça se passe comme ça, mais il sait pas quoi faire. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les voir aussi les hommes pour parler avec eux et les rassurer en disant que Parce qu'ils me disent, oui, elle dort mal, je sais pas quoi faire, je la masse et tout, mais j'ai l'impression que ça suffit pas. Je dis, mais c'est déjà énorme ce que tu fais. Continue. C'est énorme. Mais des fois, ça suffit pas. Parce que c'est un homme, parce que c'est pas pareil. Donc, c'est souvent ce que les femmes, elles cherchent, en tout cas, de mon expérience, c'est vraiment avoir une présence féminine à qui parler, quelqu'un qui est neutre, quelqu'un que tu connais pas, qui connaît pas ta famille, et voilà, c'est vraiment ça. Après, il y a beaucoup de femmes aussi qui veulent des doulas, parce que c'est souvent comme ça qu'elles sont connues, les doulas, parce qu'elles veulent des accouchements naturels, donc elles veulent qu'on les accompagne en plus des sages-femmes à la préparation à cette naissance. Donc c'est ce que je fais beaucoup aussi.
Et donc dans ces cas-là, tu travailles en collaboration avec la sage-femme ?
Non, je ne travaille pas en collaboration avec la sage-femme.
Entre l'accompagnement que propose la sage-femme et l'accompagnement que propose la doula, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses en commun en fait ? Est-ce qu'on peut avoir une sage-femme et une doula ?
Alors, oui, on peut avoir une sage-femme et une doula. Je ne l'ai peut-être pas dit au début. Voilà, l'accompagnement de doula, il ne remplace en rien la sage-femme ou le gynéco. L'accompagnement de la doula, il est complémentaire au suivi médical. Moi, je ne suis pas là pour te dire que ta santé, elle va bien ou ta santé ne va pas bien. Voilà. Quand on me pose des questions sur la santé, moi, je dis, appelle ta sage-femme, ce n'est pas mon métier. Même si je peux avoir la réponse à la question de ce que je vois, en tout cas, si je vois que c'est urgent, je lui dis, non, va vite à l'hôpital et tout, mais ce n'est pas mon métier. Donc, évidemment qu'on peut avoir les deux parce que c'est complémentaire, ça ne se remplace pas. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la sage-femme, elle va avoir un accompagnement qui va être très médicalisé, ce qui est normal, voilà. Mmh. Et elle ne va pas forcément avoir le temps d'accompagner tout le reste. Par exemple, une femme qui va pleurer dans son bureau, dans son cabinet plutôt, elle ne va pas la rappeler le lendemain. Encore une fois, c'est pas une réflexion que je fais. Une sage-femme, contrairement à une doula, elle voit des dizaines de femmes par jour, voire plus. Elle n'a pas le temps, c'est pas son boulot. Moi, une doula, en tant que doula, si je suis avec une femme, elle n'est pas bien, ben, après, je peux la recontacter. Je vais avoir du temps pour elle. C'est pas la même chose. Et en tant que doula aussi, généralement, on ne reçoit pas nos clientes, on va chez nos clientes. Donc déjà, c'est pas du tout la même relation. La relation qu'on va avoir avec la doula, elle va être beaucoup plus intime qu'avec la sage-femme. Donc ensuite, par rapport à tout ce qui est autour de la préparation à la naissance, malheureusement, c'est pas toutes les sages-femmes qui ont une préparation qui va être très physiologique. Encore une fois, c'est pas une réflexion. Elles font avec ce qu'elles ont. Ce qu'elles ont appris, c'est pas quelque chose qui va toujours complaire les femmes. Par exemple, j'ai une femme la dernière fois qui a fait une préparation à la naissance avec une sage-femme et qui était très pro-péridurale. Moi, j'ai rien contre la péri, mais par exemple, c'est une femme qui elle souhaite pas accoucher avec une péridurale. Donc du coup, cet accompagnement que la sage-femme lui a fait, ça ne lui convient pas. Alors que moi, je vais faire un accompagnement qui va être individualisé par rapport à ce que la femme elle veut. C'est-à-dire si tu veux
adapté vraiment quoi. Voilà, sur mesure.
Voilà, sur mesure, adapté, en supplément. Parce que moi je dis pas aux femmes ne va pas chez la sage-femme. Non non non, tu fais chez la sage-femme, tu fais tes cours avec ta sage-femme. En plus c'est pris en charge par la Sécu. Et moi je complète. On complète ensemble, on voit ensemble, on réfléchit ensemble. Et moi je te montre tout. Enfin, je te donne mes ressources en espérant que j'ai des ressources supplémentaires. Mais voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas forcément l'impression qu'il y a un doublon parce que les femmes, elles sont souvent très contentes parce que justement, elles ont deux avis ou parfois aussi, justement, ça les rassure qu'on renforce ce que la sage-femme leur a dit ou vice-versa. Donc voilà.
Ok, ben merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Est-ce que tu voudrais dire un mot pour terminer ? Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Quelque chose que tu...
Je suis pas sûre de l'avoir dit, mais les doulas ont proposé aussi notre présence à l'accouchement.
Ah non, tu l'as pas dit.
Ouais, non, je l'ai pas dit. Et du coup, la présence à l'accouchement, elle est encore une fois complémentaire au personnel médical. Hein. Donc, et du coup, la présence à l'accouchement, c'est vraiment pour gérer tout ce qui est soutien émotionnel. Et les études l'ont très bien montré que avoir une doula le jour de son accouchement réduirait le temps de travail, réduirait tout ce qui est intervention, donc moins de césarienne, moins de forceps, moins de recours aux ventouses, moins de péridurale et tout plein de choses. En général, quand il y a une doula, ça se passe beaucoup mieux, on va dire. C'est plus rapide. Et ce que je voudrais dire par rapport à ces études, parce que c'est super intéressant, c'est sur des doulas et tout, mais moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que ces études, c'est fait sur des doulas, mais ça peut être toute autre personne qui est présente à l'accouchement et qui serait informée, voilà, qui serait informée sur tout ce qui peut se passer. Évidemment, il faut que la femme soit préparée aussi à son accouchement. Qui soit un bon soutien émotionnel, donc quelqu'un qui veut vraiment être présent et qui soutient la femme. Et quelqu'un qui n'est pas stressé, quelqu'un qui soit serein. Donc, par exemple, une tante, une sœur ou un mari qui a tous ces critères, pour moi, il peut entrer dans ses études. Donc, voilà. Faut pas dire que la doula, c'est la doula qui sauve les accouchements. voilà, j'aime bien dire ça parce que c'est pour montrer aussi que la personne qui sera présente le jour de l'accouchement peut vraiment déterminer comment l'accouchement il peut se passer. Voilà. Donc, sinon un mot à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? La grossesse c'est pas toujours facile et si c'est pas facile, c'est pas grave parce qu'on a souvent J'ai énormément de femmes qui me disent « Oui, on m'a dit quand j'allais être enceinte que tu vas voir, ça va être magnifique, ça va être beau et tout. » Mais c'est pas tout le monde qui le vit comme ça et c'est pas grave. Et que si on a besoin de se faire aider, accompagner, soutenir, écouter, ben faut absolument pas hésiter. Voilà, parce que une grossesse sereine, c'est un accouchement serein, c'est un postpartum plus serein et des enfants plus sereins aussi. Donc, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vraiment moi me focaliser sur les mamans parce que pour changer le monde de demain, il faut déjà que les mamans elles soient sereines pour qu'elles puissent avoir des enfants sereins. Enfin bref, c'est toute une boucle. Donc voilà.
Un cercle vertueux.
Un cercle vertueux.
Merci Émilie.
Merci à toi Lauriane.
Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts si vous utilisez cette plateforme ou des notes sur Spotify si vous écoutez depuis Spotify. Si ce contenu vous parle, inscrivez-vous à la newsletter et recevez un mail tous les lundis pour interroger la parentalité et découvrir les coulisses du podcast. Rendez-vous sur orema.fr/nl-parentalité et obtenez directement dans votre boîte mail le guide pour éveiller les enfants à l'antiracisme. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-moi sur Instagram @orema-8podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode.